20h, 21h. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts, ceux qui ont marqué un tournant et notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 20 novembre 2001. Jean-Jacques Goldman sort son 7e album, Chanson pour les pieds. Ce que l'on ne sait pas à l'époque, c'est qu'il s'agit du dernier.
On a fait au château il y a bien longtemps. Les belles et les beaux nobles y au noble sang. De tout le royaume on est venu dansant. Tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les violons.
Nous sommes le 20 novembre 2001 et Tourne les violons. Le titre de l'album qui inonde les disquaires et sur lequel se ruent tous les amateurs de bonne musique française annonce la couleur. La France va danser pour oublier l'amorosité du monde. Chanson pour les pieds, c'est le 7e album de Jean-Jacques Goldman. Mais ce que l'on ignore à l'époque, c'est que ce sera le dernier et que bientôt, le chanteur préféré des Français va tirer sa révérence et vivre une vie normale, comme vous et moi, loin des lumières et des objectifs. Tous les styles sont présents, R&B, balade, disco, rock, zouk, pop, swing de fanfare, gig, tarentelle et j'en passe. Goldman nous offre un nouveau bijou qui revisite la joie et le partage en musique. Pourtant, si l'on avait prêté l'oreille un peu plus attentivement, on aurait pu s'en douter. La notoriété, très peu pour cet auteur-compositeur-interprète qui depuis 30 ans tape dans le mille et dans le cœur à chaque chanson. Il est discret, il esquive les interviews, murmure plus qu'il ne parle, mais gratifie toujours ceux qui le rencontrent d'un sourire sincère et lucide. Il ne tombera jamais dans le panneau de la grosse tête et du star system.
Yves Montand, on lui disait « Vous êtes une star ». Il a dit « Star », ça veut dire « étoile » en anglais.
Ouais.
Et donc, ça, c'est quelque chose qui est loin des gens. Donc, je ne suis pas une star. Et alors, moi, je me sens bien comme ça parce que j'ai vécu 30 ans dans l'anonymat. J'étais très heureux d'y être et je fréquentais des gens qui me plaisaient beaucoup. Mmh. Et je n'ai pas du tout l'intention que ça change.
Il faut dire qu'au départ, c'est aux autres qu'il souhaitait offrir son talent. Tout a commencé chez les scouts pour Goldman. C'est probablement là que je suis montée sur scène la première fois. C'est là que j'ai un jour emprunté la guitare de mon chef de patrouille et que j'ai commencé à gratter dessus, confessera-t-il un jour. En parallèle de ses premiers groupes de musique, les Red Mountains Gospelers, The Phalanster et enfin Typhoon, Jean-Jacques Goldman travaille dans le magasin d'articles de sport familial. C'est dans les années 70 qu'un certain Michael Jones, guitariste et chanteur gallois, postule pour rentrer dans le groupe Typhoon. Coup de foudre amical et musical, passionnel comme le décrira Jones lui-même, une amitié prolifique que rien ne viendra briser. En 1981, Jean-Jacques Goldman, cheveux longs, cravate rouge sur chemise à carreaux, fait une entrée fracassante dans la chanson française avec « Il suffira d'un signe ». Cette chanson fera un carton et marquera le début d'une carrière exemplaire, irréprochable. Mais ce qu'il préfère, Jean-Jacques Goldman, c'est rester dans l'ombre et travailler pour les autres. Il écrit L'envie pour Johnny Hallyday, qui déclarera plus tard « Goldman m'a écrit une des chansons qui me ressemble le plus » et signe tout un album pour Céline Dion, 2, qui restera l'opus francophone le plus vendu de l'histoire du disque avec 7 millions d'exemplaires. On lui doit bien sûr l'hymne des Restos du Cœur et des collaborations couronnées de succès avec toute une nouvelle génération d'artistes, de De Palmas à Garou, en passant par Calogero. Portrait ce soir d'un homme discret, délicat, qui considère qu'il ne mérite pas les louanges qu'on peut lui porter. Un homme que le besoin d'anonymat rend chaque jour un peu plus illustre. Dans un instant, Éric Jean-Jean, dont le livre sur Jean-Jacques Goldman sort jeudi prochain, sera notre invité. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous en ce lundi dans Jour J. Nous sommes en direct sur RTL et sur RTL.fr et ce soir nous nous téléportons en 2001, le 20 novembre exactement. On se rue tous à ce moment-là sur le nouvel album de Jean-Jacques Goldman intitulé « Chanson pour les pieds ». Mais ce que l'on ne sait pas encore à l'époque, c'est qu'il s'agit du tout dernier de l'artiste musical préféré des Français. Éric Jean-Jean, bonsoir.
Bonsoir Flavie.
Vous êtes journaliste spécialisé dans la musique. Les auditeurs d'RTL vous écoutent sur cette antenne et sur RTL. 2022. Et c'est jeudi que sortira, pour ceux qui nous suivent sur RTL.fr et donc qui allient l'image au son, que sortira donc votre tout nouveau livre, Goldman, une vie en chanson, chez Hugo Doc. En réalité, en fait, il n'y a pas vraiment eu d'annonce officielle, quoi. Goldman, il est parti sur la pointe des pieds.
Il est parti sur la pointe des pieds, c'est-à-dire qu'il est parti en trois temps. En fait, il fait un album en 97 qui s'appelle En passant, et lui, il a décidé que c'était fini. C'est un sublime album, et en revanche, pour ses copains musiciens, il accepte de faire un dernier album, ce fameux album Chanson pour les pieds. C'est juste pour faire une dernière tournée.
Alors attendez, ça faisait 4 ans en fait qu'il avait déjà décidé de se mettre en retrait.
Il sait qu'il a fait le tour de la question, il sait qu'il a plus envie, il sait qu'il a envie de passer à autre chose. Il vient de divorcer en 97, il a déjà rencontré celle qui va être la femme de sa vie, la deuxième femme de sa vie, parce que Catherine a été la première, mais là en l'occurrence il a rencontré Nathalie. Et donc voilà, il a plus envie de partir des années sur la route, et donc il fait cet album Chanson pour les pieds.
Qui sera suivi par une tournée absolument triomphale.
Un tour ensemble, voilà. Et qui donnera lieu d'ailleurs à son dernier concert qui aura lieu, alors dernier concert de cette tournée qui aura lieu à la patinoire de Bordeaux-Mériadec, et le dernier concert de Jean-Jacques Goldman sous le nom de Jean-Jacques Goldman, c'est le 17 juillet 2003, et c'est un concert hommage à Jean-Louis Foulquier qui était son ami au Franco de La Rochelle, organisé par notre ami commun Didier Varro.
Dites donc, quel parcours pour un petit mec de Montrouge.
c'est beaucoup plus qu'un petit mec de Montrouge.
Racontez-nous justement, il vient d'où ?
Alors, il vient de Montrouge, en effet. Mais c'est,
banlieue parisienne.
C'est plutôt dans les Balkans qu'on doit trouver l'origine de la famille Goldman. D'abord, il y a Moïse, c'est le papa, qui naît au début du siècle en Pologne, dans un pays où il y a des pogroms, et quand il grandit, il se dit qu'il veut pas vieillir ici. Alors il part d'abord dans les années 30, il part en Allemagne, il se rend compte que c'est pire qu'en Pologne. Du coup, il arrive en France. Et là, en France, il va devenir d'abord un soldat français. Il va s'engager dans l'armée française, partir en Afrique du Nord. Et au retour, il va être naturalisé français. Il va gagner sa nationalité française, puis faire la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand il est démobilisé, il se rend compte que la France a perdu la guerre, et surtout que les nazis ont gagné, et que ça devient très dangereux. Rappelons qu'il est juif ashkéna, c'est-à-dire les juifs de l'Est, et que c'est la catastrophe. Alors il va devenir un immense résistant. Mais un très grand résistant. On a dit de lui, je sais que le mot est fort, mais c'était un Jean Moulin juif, quoi. Donc c'est ce papa-là. Et c'est un papa fort,
Jean-Jacques Goldman,
qui d'ailleurs recevra la Légion d'honneur peu de temps avant de mourir. Ce soir-là, Jean-Jacques donnera un concert très émouvant, il y aura toute sa famille. Donc ça, c'est le papa de Jean-Jacques qui va se marier une première fois avec une Polonaise. Ça va donner lieu à un demi-frère, Pierre. Puis voilà, le couple va se séparer. Pierre va rester avec son papa, qui va rencontrer la maman, Ruth, alors qui, elle, vient d'Allemagne. Pareil, juive allemande, pareil, résistante. Et voilà, et ensemble, ils vont avoir 3 enfants, une grande sœur, Jean-Jacques, et puis le petit frère, en l'occurrence Robert. Tout ça grandit dans la région de Montrouge. Alors on est très ouvert au débat dans la famille Goldman. Ça bavarde beaucoup, ça
lit
beaucoup.
À l'engagement, déjà, on s'en rendra compte d'ailleurs.
Ah bah, tout le monde est à gauche d'abord. En l'occurrence, le papa Moïse, militant communiste, mais pas encarté. Parce qu'en fait, quand il a vu ce que les communistes avaient fait du monde soviétique, il dit « moi, je ne veux pas participer à ça », parce qu'il retrouve à peu près les mêmes choses que ce qu'il a vu en Allemagne et en Pologne. Mais en revanche, évidemment, très à gauche, sa sœur, sa grande sœur, est elle aussi très à gauche, qui est médecin aujourd'hui. Et puis Jean-Jacques, lui, il est engagé. Il est assez bon élève. Voilà, il passe son bac, qu'il obtient assez facilement. Puis ensuite, il y a la prépa. Puis ensuite, au début des années 70, il part à Lille faire l'EDEC, une école de commerce. Là, ça se passe super bien.
Donc là, c'est pas encore un artiste, quoi. Il a des appétences.
Il a des appétences, mais... il a du talent. Il commence à faire de la musique. Les premiers instruments, ça se passe au début de l'adolescence. À partir de 12 ans, il découvre la guitare. Avant, il fait un peu de piano, un peu de flûte. Et puis il joue avec ses fameux, vous le donniez tout à l'heure, Flavie, dans votre papier d'ouverture. Il joue avec les fameux Red Mountain Gospelers. Red Mountain, Montrouge, puisqu'il a grandi à Montrouge. Et c'est le curé de la paroisse à côté qui a acheté un orgue électrique et qui a besoin de mômes pour les occuper, surtout. Et c'est lui qui va produire le premier 45 tours des Red Mountain Gospelers, qui va être vendu à la sortie de l'église. Donc il existe, il y a des gens qui ont chez eux des disques,
c'est
qui
génial.
Sont les premiers disques de Goldman. Ensuite, il va aller dans ce groupe-là qui s'appelle Phalansters. Alors ça va aller assez loin pour les Phalansters, parce qu'il va jouer au Golf Drouot, le tremplin du Golf Drouot, qui vont remporter. Les Phalansters, c'est la phalanstère. C'est un philosophe qui s'appelle Fourier, philosophe qui a inventé un monde idéal. Et la phalanstère, c'est la ville idéale. Voilà, Jean-Jacques va jouer là-dedans. Puis quand il est étudiant, il rencontre ses deux frères d'origine vietnamienne qui fondent Taifong, grand vent vietnamien. Il va faire 3 albums avec eux et son premier tube qui s'appelle Sister Jane. Et puis voilà, pendant qu'il est étudiant, il découvre que chanter en français, c'est cool grâce à Léo Ferré. Un jour, il va à un concert de Léo Ferré, on est en 72, parce qu'il veut voir le groupe Zoo, qu'il adore, et ils accompagnent Léo Ferré. Et il se rend compte que la musique peut être cool, mais la force des mots est incroyable.
Le slow qui emballe quand même.
Ah oui, Sister Jane, bah oui.
C'est là qu'on découvre vraiment, je dirais, la voix de Goldman, même s'il
oui,
avait fait des choses auparavant.
Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est génial. Jean-Jacques ne veut pas être une star, donc quand ouais. Michael Jones arrive, c'est parce que Jean-Jacques ne veut pas partir en tournée, il ne veut pas monter sur scène, il ne veut pas quitter ouais. Le magasin de sport qu'il vient de racheter aux parents avec son frère. Et surtout, quand il commence à passer à la télé avec Sister Jane, en fait, il y a des types qui viennent au magasin de sport et qui disent « Mais vous êtes le chanteur ?» Non, 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 je suis un cousin éloigné, je lui ressemble, mais ce n'est pas moi.
C'est ce qu'on fait parfois. Non, non, ce n'est pas moi. Ça n'est pas moi. Donc, une adolescence plutôt
studieuse, musicale.
Voilà, il se lance dans la chanson, mais ce que vous avez dit, c'est très important et ça explique aussi la suite de l'histoire, c'est que Jean-Jacques a toujours envie de rester quelque part Jean-Jacques Goldman, l'anonyme. On va revenir sur sa personnalité dans un instant, Éric Jean-Jean. On écoutera d'ailleurs Goldman parler de son métier et parler justement de tous ses à côté. Voilà, il n'était pas fait pour ça, hein, on va dire.
Il a fait pour chanter. Il a ardemment voulu être le numéro un, mais il n'a pas aimé l'être.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être avec nous ce soir. Notre jour J est musical, histoire de mettre de bonnes ondes sur RTL en ce lundi soir. Merci donc d'être avec nous. Nous sommes en direct avec notre invité Éric Jean-Jean et nous avons plaisir à parler ce soir de la vie et de la carrière de l'artiste le plus discret de la chanson française, Jean-Jacques Goldman. Il a tiré sa révérence comme ça, sans prévenir. On était loin de s'en douter quand il a sorti son dernier album. C'était en 2001. Comme s'il allait toujours rester là, finalement, égayer, enchanter nos vies et nos soirées. Jean-Jacques Goldman, c'est un artiste prolifique, 7 albums personnels en 20 ans, sans compter des centaines de collaborations dont on va parler un petit peu plus tard. Un artiste prolifique mais qui n'a aucun goût pour les à côté et les mondanités. Écoutez-le au micro de France 3, c'était en 1984.
Ce qui représente le métier avec des guillemets, c'est surtout tout ce qui est cocktail, réception, boîte de nuit et tout ça. Je peux pas dire que ce soit des endroits où qui m'excite beaucoup, mais enfin, même quand je faisais pas ce métier, c'était pas un endroit où je vivais beaucoup. Par contre, si le métier c'est être dans des studios, être sur scène, être avec des musiciens, ça c'est un métier que je fréquente beaucoup et avec beaucoup de plaisir.
Éric Jean-Jean, vous êtes avec nous jusqu'à 21h. Votre livre s'intitule « Goldman, une vie en chanson » chez Hugo Doc. Je suis très heureuse, moi, de l'avoir entre les mains, mais il ne sortira que jeudi pour le grand public. Vous revisitez toutes les chansons de Goldman. On vient de l'entendre là, en fait, Goldman, ce qu'il voulait, c'était être artiste, c'était faire son métier, mais pas les à côté.
Mais même plus que ça, il voulait être auteur, compositeur, point. Ouais. D'ailleurs, c'est comme ça que ça débute. Il commence en étant auteur, compositeur pour une jeune femme, pour un concours à la télévision. Une émission d'ailleurs présentée à midi, dans le cadre de Midi Première par Daniel Gilbert.
Ah, j'allais dire, par Daniel Gilbert, bah, forcément.
Et c'est comme ça que son nom est cité à l'antenne et il est repéré par un jeune éditeur qui a un peu les crocs et qui a du talent et qui s'appelle Marc Lombroso. Et Marc Lombroso rencontre Jean-Jacques, les deux fitent assez bien et au final, il décide que Marc va essayer de placer les chansons de Jean-Jacques. Et il essaye et ça marche pas du tout.
Ouais,
et il n'arrive pas à placer une seule chanson au point que Marc lui dit il va falloir que tu les chantes, les chansons à moment. Et c'est comme ça que Jean-Jacques Goldman se met à chanter. Mais vous savez, quand il a commencé le métier, Jean-Jacques, il avait déjà 30 ans, il avait déjà une vie, il avait déjà des enfants, et il avait déjà cette maison qu'il va garder pendant toute sa vie. Après, à la fin des années 90, il va s'installer dans le 6e arrondissement, quand il va se séparer de sa première épouse, mais il est resté à Montrouge pendant toute la Goldman mania. Et je crois qu'il n'était pas dingue du fait de monter sur scène. Je vous le disais tout à l'heure, Flavie, quand arrive Michael Jones, c'est parce que Jean-Jacques ne veut pas monter sur scène avec le groupe Typhon pour
il veut envoyer quelqu'un à sa place.
Ouais.
Quoi.
La première tournée de Jean-Jacques, d'abord, quand il a son premier succès avec le premier album, on lui dit tu vas faire la tournée des discothèques. C'est un truc très, très en vogue à l'époque, c'est le début des années 80, puis tu vas gagner des sous. Et Jean-Jacques trouve que c'est un boulot très respectable, mais pas pour lui. Il n'a pas du tout envie de ce genre de truc. Ce showbiz-là, ça ne l'intéresse pas. Il va attendre le deuxième album et début du troisième pour faire sa vraie tournée.
C'est quoi son secret, justement, pour que ces chansons nous parlent autant? C'est quoi la méthode Goldman?
C'est un songwriter. C'est pas... Vous savez, il y a deux sortes de chanteurs. Il y a les chanteurs qui racontent leur vie. Il y a les chanteurs qui racontent leur trip. Jacques Brel, Renaud, voilà. Le meilleur exemple de ça, c'est Renaud qui nous a raconté sa vie en long, en large et en travers. Jean-Jacques parle très très peu de lui. Jean-Jacques Goldman, c'est un homme qui a dans la poche arrière de son jean un petit carnet avec un stylo et il prend des notes quand il a des idées et il développe tout ça, des petites phrases, et il en fait des chansons. C'est un songwriter un peu à la manière de Dylan. Je sais que le mot est fort, mais je le pense.
Voici comment il analyse en tout cas le succès de ses chansons.
Je crois au contraire que éventuellement ce qui peut plaire, c'est justement ce côté pas strass, différent, etc. Peut-être que les gens sont attachés aux chansons parce qu'elles leur ressemblent et parce que je leur ressemble et que je suis pas différent, peut-être. Enfin...
Ouais, c'est
complètement
ça.
C'est-à-dire que, en fait, il dit, il y a une phrase très jolie qui dit, je l'ai reprise dans le bouquin et je finis par ça. Il dit, au début, on s'attache à une chanson par la mélodie, comme ça, parce qu'elle nous accroche, et puis au final, c'est grâce au texte qu'on assume le fait d'avoir aimé une mélodie, même si elle est un peu légère et un peu pop. Et en réalité, Jean-Jacques, il a cette intelligence de capter l'air du temps. C'est un peu comme s'il était, vous savez, je sais pas, un réceptacle de toutes les humeurs du temps, et il va écrire des chansons qui collent vraiment à l'époque, notamment toute la partie des années 80, c'est incroyable.
Alors justement, je voudrais qu'on l'écoute maintenant, nous expliquer que c'est un mec normal, avec des goûts simples. On va revenir justement sur quelques propos qu'il va tenir tout de suite.
Pour être tout à fait honnête, la promotion, enfin aller à la télé, aller en radio, il y a toujours autre chose que je préfère faire. Je préfère aller jouer au Scrabble ou rien faire, ou regarder les autres. Donc je sais qu'il faut le faire. D'une part parce que c'est utile dans le métier, et d'autre part parce que les gens, on leur doit ça, un peu. Mais bon, moins j'en fais, mieux je me porte. Voilà.
Ou regarder les autres.
Ouais.
Quand,
oui.
Quand il explique ce qu'il aimerait faire... Ouais. J'aimerais regarder les autres. Mais je préfère que regarder les autres plutôt que la lumière soit sur moi.
C'est
ça la force de ces chansons.
Le sens de l'observation, mais y compris dans la vraie vie. Hein. Goldman, quand il vous croise, il vous scanne et il a très vite pigé à qui il a affaire. Vous savez, il y a une chanson, Flavie, qui s'appelle « Nous ne nous parlerons pas ».
Mmh.
Et cette chanson, il l'a écrite à destination de ses fans, où il dit « Les chansons sont souvent plus grandes que leurs auteurs ». Donc je vous prie de m'excuser parce que les fans vont vraiment lui reprocher à un moment, hein, alors qu'il est au sommet de sa gloire, d'être un peu distant comme ça. Il y a cette grande légende qui est vraie, qui était quand il tournait dans les Zéniths, il y avait la fin de la chanson qui jouait encore et lui il sortait, il y avait sa moto qui l'attendait.
Il revenait pas.
Et il était quasiment arrivé à Montrouge quand les gens sortaient, du Zénith de Paris.
Enfin, est-ce qu'on lui en a voulu à une époque? Est-ce qu'on a considéré que c'était un artiste qui se tenait loin de ses fans, ou est-ce qu'on a toujours compris Le discret qu'il est?
Alors, on n'a pas toujours compris le discret qu'il est. Il a fallu attendre que ses fans vieillissent. Il a fallu attendre que, justement, l'hystérie autour de Jean-Jacques vieillisse. Il y a une très jolie chanson dans laquelle il dit je ne t'appartiens pas. Et il dit, c'est une chanson sur les mots d'amour, c'est une chanson très courte où il dit voilà, je t'aime, mon chéri, mon amour, mon bébé, mais non, je ne t'appartiens pas, je n'appartiens qu'à moi. Et je crois que c'est ce qu'il a pensé toute sa vie et c'est ce qu'il pense encore.
Les grandes collaborations de Jean-Jacques Goldman, Johnny, Céline, Slin et tous les autres, c'est dans un instant en direct sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, Jour J revient en musique sur la vie et sur la carrière de Jean-Jacques Goldman. Son dernier album date d'il y a 20 ans. Ça nous fiche un coup sur la cafetière, comme dirait ma grand-mère. Eric Jean-Jean, vous êtes notre invité.
Je suis tellement impressionné par le fait que nous soyons aussi sérieux depuis le début de cette
jusqu'à
émission.
Jusqu'à 21h. Ah bah attendez, oui, mais on a plein de choses à raconter à nos auditeurs,
vrai,
grâce à votre livre, notamment Goldman, une vie en chanson, chez Hugo Doc, qui sort jeudi.
Ouais.
Bon, en parallèle de ses albums personnels, Goldman y fait ce qu'il préfère, on en a parlé il y a un instant, travailler avec et pour les autres. Racontez-nous les pseudos de Goldman.
Alors, quand il débute, il fait un truc, mais sous le nom de Sweet Memories, c'est hyper drôle. Sweet Memories, il fait une espèce de recollection du slow sur fond de canon de Pachelbel. C'est un peu raté, mais c'est
pour qui ça?
Ah bah c'est pour lui, Sweet Memories, en fait c'est lui, mais c'est un pseudo.
Ah,
après
d'accord.
Il va écrire pour les autres, par exemple, il va écrire sous le nom de Sam Brevski pour Florent Pagny, si tu veux m'essayer. Et c'est vachement intelligent de faire ça, parce que en fait, il est déjà très célèbre quand il lui donne Si tu veux m'essayer, et il dit, et Florent Pagny le dit également dans différentes interviews, s'il y avait écrit en bas de la chanson écrite par Jean-Jacques Goldman, tout le monde se serait intéressé au fait que ce soit Jean-Jacques Goldman et pas à la chanson. Et Si tu veux m'essayer, qu'on sache ou non que c'est pas Jean-Jacques Goldman, on sait que c'est une grande chanson. Il a aussi Homme en or. Donc Goldman, Homme en or. Ça, c'est quand il va écrire pour Marc Lavoine.
C'est très marrant, parce qu'il y a un côté presque enfantin dans le choix du pseudo.
Mais vous l'avez dit, Flavie, il est rigolo, Jean-Jacques.
Ouais.
Il est pince sans lire.
C'est ce qu'on se disait il y a un instant hors antenne, c'est qu'il a beaucoup d'humour.
Ouais. Il est assez rigolo. Voilà. Donc Sam Brevski, c'est quand même le plus utilisé. Et puis après, il va le faire sous son nom, notamment quand il va travailler avec les gros poissons. Là, pour le coup, il va utiliser son nom.
Et bien justement, en 1986, Johnny Hallyday fait appel à Jean-Jacques Goldman.
Goldman m'a écrit un jour une chanson qui me ressemble, peut-être une des chansons qui me ressemble le mieux. C'est « Donnez-moi envie d'avoir envie ». Johnny, il marche aux envies, il marche à l'instinct, il marche... Et ça veut tout dire, cette chanson.
Alors Johnny, qui à l'époque parlait comme Delon. Hein, Johnny, il marche à l'envie, il marche à l'instinct. Bon, alors là, est-ce qu'on peut dire que Goldman a tout compris de Johnny ? Est-ce que c'est du sur-mesure ?
Le grand paradoxe alors, de cette chanson, cher Flavie, c'est qu'en fait, quand il l'écrit, j'ai bien dit quand il l'écrit, Jean-Jacques, encore une fois, je vous le dis, c'est un songwriter, c'est-à-dire c'est un type qui écrit des chansons. Et quand il l'écrit, il cherche quelqu'un, il écrit ça à la fin des années 70, début des années 80, il cherche quelqu'un qui a tout eu quand il était petit. Et il pense à Michel Sardou. Et en fait, cette chanson, la première bouture de cette chanson, est écrite en pensant à Michel Sardou. Alors attention, il ne l'a jamais proposé à Michel Sardou, contrairement à ce qui a été dit. Il a juste écrit cette chanson qui est restée dans les tiroirs parce que...
C'est un choix assez logique, hein, ça peut être bien.
Absolument. Et puis surtout, Sardou a une grande voix, il aurait pu bien la chanter.
Ouais, ouais,
mais objectivement, quand il a l'idée de génie de repenser à cette chanson qu'il a écrite il y a quelques années pour la proposer à Johnny, voilà, Johnny, vous savez, enfance star, enfin non, enfance dure, contrairement à celle de Michel Sardou, mais enfance, et à partir de 17 ans, il devient le roi de France jusqu'à sa mort. Donc on m'a tout donné bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves et les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie.
Vous pouvez continuer si vous voulez, mais enfin,
et le désir aussi.
On va passer à Céline dans un instant, mais enfin, en tout cas, une chanson, évidemment, l'envie que l'on connaît tous par cœur et que le public a chanté très fort Place de la Madeleine aux obsèques de Johnny. C'était le 9 décembre 2007. Ah oui, celle-ci.
Ça c'est... fait partie, fait, des chansons qui ont marqué la carrière de Johnny. Il y en a quelques-unes comme ça. Et, celle-là,
et nos vies aussi.
Bien sûr.
Et nos vies. Et puis, il y a eu Céline Dion. Et là, alors là, c'est Goldman qui approche l'artiste.
Oui.
On est en 95.
Ça vient de très loin, cette histoire. En fait, l'un des premiers chocs... d'ailleurs, il le chante dans une chanson qui s'appelle 1, 2, 3. Vous savez, 1, 2, 3, petit mama. Et il dit la voix d'Aretha. Et en fait, l'un des grands chocs de Goldman, c'est Dylan qui voit à l'Olympia, c'est Hendrix qui voit alors qu'il est en voyage en Angleterre. Il entend dans le jukebox Jimi Hendrix. Et un jour, il rentre dans une boîte de nuit et il entend Respect d'Aretha Franklin. Et là, il est fasciné par ses voix. Et toute sa carrière, il va chercher des grandes voix. Alors, rappelez-vous Sirima pour l'album Entre gris clair et gris foncé avec le destin tragique que l'on connaît d'elle. Rappelez-vous ensuite de chanteuses qu'il essaye de faire chanter, notamment Carole Fredericks, hein, qui va devenir son acolyte dans Fredericks Goldman Jones. Il aime les grandes voix. Et il piste Céline Dion au moment à peu près de Ziggy. Elle chante cette chanson de Starmania, écrite par Luc Plamondon. Elle fait un album où elle chante les chansons de Plamondon. Et on la voit pas mal sur les vidéos. Et donc, il va voir René, qui est très embêté d'ailleurs, René, parce qu'il voulait faire un album entier avec des chansons de Plamondon. Et puis finalement, Jean-Jacques lui dit, écoutez, laissez-moi un peu de temps. Je voudrais vous proposer un album entier. Donc René il dit pourquoi pas. Et donc Jean-Jacques il va faire un truc dingue, c'est-à-dire qu'il va tout lire sur Céline, écouter toutes ses chansons, voir le moindre article du moindre fanzine sur elle, et il va lui fabriquer, songwriter encore une fois, auteur de chansons, il va lui fabriquer des chansons sur mesure. Et arrive cette fameuse soirée, il y a dans un studio Eric Benzi, qui est l'arrangeur qui travaille avec Jean-Jacques, ex du groupe Canada, il y a Jean-Jacques, il y a Céline et il y a René, et à chaque chanson, Céline prend sa claque et arrive pour que tu m'aimes encore. Et là, Céline s'effondre en larmes. C'est la légende qui dit ça. Moi, j'étais pas là. Et ça devient son hymne à l'amour, comme elle le dira. En fait, Jean-Jacques, en travaillant sur Céline, d'ailleurs, je crois que c'est bien capté dans le film qui va arriver justement, qui s'appelle Aline. Et en fait, il a compris que la grande histoire, c'est l'histoire d'amour entre René Angélil, ce type qui rencontre cette gamine qui a 12-13 ans et qui hypothèque sa maison pour faire à cette femme qui va devenir la sienne, la carrière qu'elle sait. Donc, il a compris que le nœud de l'histoire, c'est l'histoire d'amour entre Céline et René, et ça se traduit par cette chanson. Et bah voilà, c'est un chef-d'œuvre.
Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici.
Et cette chanson qui figurera sur l'album 2.
D'EUX. D'ailleurs, l'album a failli s'appeler Pour que tu m'aimes encore. Et c'est Jean-Jacques qui a eu l'idée de faire cet album 2. Il y a un duo dans cet album, d'ailleurs, J'irai où tu iras. Mais c'est Jean-Jacques qui a eu l'idée du titre.
7 millions d'exemplaires vendus.
Moi, je pense même qu'on est pas loin
le plus vendu de l'histoire du disque. 10 millions. 10 millions, je vous le fais à 10 millions ce soir. On se retrouve dans un instant, car Jean-Jacques Goldman, ce sont aussi évidemment les restos. Et c'est dans un instant dans Georgie.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, Georgie célèbre Goldman, artiste humble, discret et engagé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on l'aime autant, Éric Jean-Jean.
Ouais, parce qu'il a, lui, vous savez, à toute contestation volubile, il préfère une action efficace.
Les Restos du Cœur sont créés par Coluche en 1985 et c'est en 86 que l'on découvre l'hymne de l'association signé Goldman. Et quiconque a eu la chance d'aller assister au concert des Restos a vécu un grand moment, parce que reprendre cet hymne, c'est à chaque fois mettre un peu son cœur à l'unisson avec nos voisins. Ouais.
C'est souvent la chanson de clôture, hein. Donc il y a des bénévoles qui montent sur scène avec tous les artistes.
C'est super beau. C'est super émouvant. À la mort de Coluche, Goldman devient le principal organisateur des Restos. Il organise notamment, alors là c'est ce qui n'avait pas lieu du temps de Coluche, mais des concerts. Ouais. Les disques du collectif, les Enfoirés qui rapportent 20% des recettes de l'association. En 92, il va décider de passer le flambeau à Muriel, Robin, mais il va rester quand même à la tête de l'asso. Mmh. Et puis en 2015, alors là, naît une polémique dont il se serait bien passé. Pour la première fois, je dirais, on s'attaque au mythe Goldman. C'était très étrange, c'était un peu malaisant, comme disent les jeunes.
On s'est aussi attaqué aux Enfoirés, et ça c'était dégueulasse. C'est-à-dire,
mais qu'est-ce qui s'est passé?
Déjà, il faut quand même remettre les choses à leur place. Sans Goldman, on ne parlerait plus des Enfoirés. En vrai, hein. C'est-à-dire que Coluche lance les Enfoirés, meurt en 86, voilà. Et Goldman participe à la première campagne. Et en 89, il n'y a plus rien. Et c'est Goldman qui dit non, on ne peut pas laisser ça. Donc il va voir Véronique et il lui dit on va faire quelque chose. Et il fait la première tournée des Enfoirés qui réunit quand même, bonjour le plateau, Véronique Sanson, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Eddie Mitchell et lui. Donc bonjour le plateau, et ça va lancer les Enfoirés. Ensuite, pendant des années, oui, en effet, il va être à la direction des Enfoirés, la direction artistique des Enfoirés.
Donc c'est à lui que l'on doit tous les tableaux avec les artistes qui se déguisent. Oui. Quelque part, on met l'autodérision en avant.
Bah, enfin, très inspiré, vous savez, Flavie, des trucs qu'on regardait en pyjama quand on était petit.
Bon, parlez pour vous, moi je suis plus jeune que vous quand même.
Pardon, ouais. je parlais de moi et de ma famille. Voilà. Et de ma grande sœur.
Et c'était quoi, les Carpentiers?
Les Carpentiers, bien sûr. Très, donc pas d'animateur, uniquement des scénettes comme ça qui se suivent avec des chansons. Et la règle de base des Enfoirés créée par Jean-Jacques Goldman, c'est je me fous du style de musique que vous faites. Si vous êtes capable de remplir un zénith tout seul, vous êtes le bienvenu. C'est la base. Et ensuite, il va faire venir des artistes populaires, des artistes qui sont des gens qui drainent du monde, parce que le but du jeu, c'est de vendre cette émission de télé le plus cher possible à TF1. Et ça, personne s'en est jamais caché. C'est de vendre des billets dans les zéniths. Et ça, personne s'en est jamais caché. Parce que le seul but, parce que les artistes ne sont pas payés, il n'y a pas d'attaché de presse, enfin voilà. Le seul but, c'est de gagner le plus d'argent possible pour l'association. En ce sens, c'est ultra pur. Alors après arrive cette polémique sur cette chanson, je crois que c'est toute une vie, elle s'appelle...
Toute la vie.
Alors, toute la vie, cette chanson, en fait, c'est deux chorales qui se répondent. C'est-à-dire des jeunes qui parlent aux anciens joués par les Enfoirés en leur disant « Mais comment vous laissez le monde ?» en gros. Mmh. Et des anciens qui leur disent « Les gars, mettez-vous au taf, arrêtez de râler, mettez-vous au boulot. » Alors ça va passer pour réac. Je pense que ça a choqué Jean-Jacques, parce que s'il y en a bien un qui n'est pas réac, c'est lui. Je pense qu'il n'avait pas du tout cette idée en tête. Il a voulu juste créer une scénette qui pouvait peut-être mettre certains jeunes en mouvement. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Mais c'est un peu le principe 2016. Il y a déjà les réseaux sociaux. Tout le monde s'attaque aux icônes. On aime bien détruire nos idoles, hein, en France. Bah là, ça a été le cas pour Jean-Jacques, et voilà. Mais je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais j'ai l'impression qu'il avait déjà décidé avant d'arrêter.
En tout cas, c'est au petit journal de Yann Barthès que Goldman choisira de s'expliquer.
Je suis un peu surpris, parce que le thème de la chanson, c'est quand même au contraire des jeunes qui demandent des comptes aux adultes. Mais la chanson ne dit pas du tout que la vie était mieux avant. La chanson, elle est sortie il y a presque 2 mois. On a fait 7 concerts devant plus de 80 000 personnes, il y avait plein de presse, il y avait 600 techniciens. Personne nous a jamais fait part du moindre malaise, quoi. C'est ça qui est bizarre. C'est juste une chanson. Vous pensez pas qu'on cherche un petit peu trop la petite bête?
Vous pensez pas aussi, je viens de le réaliser en écoutant, que c'est l'avènement quelque part des réseaux sociaux et la société aussi du buzz et de la polémique qu'on s'en est pris à Goldman.
Je pense, oui, parce que désormais vous êtes à un clic de Goldman et vous pouvez dire des saloperies sur lui en un clic, ce qui est profondément injuste. C'est-à-dire que vraiment, je le répète, sans Jean-Jacques Goldman, on ne parlerait plus aujourd'hui des Enfoirés. Peut-être des Restos du Cœur, je ne sais pas, mais en tout cas des Enfoirés et peut-être même des Restos du Cœur, on n'en parlerait plus. C'est-à-dire que le travail qu'il a fait pendant 30 ans, 1986-2016, Flavie, colossal.
Oui, alors c'est colossal parce qu'effectivement, il a décidé dans la foulée, hein, je dirais, de quitter les Restos, même s'il est toujours là. Il est toujours là, enfin,
ils espèrent tous qu'il va passer.
Ouais, c'est vraiment... ça, voilà. Et est-ce qu'il passe?
Il n'est pas passé la dernière fois. Il y a Patrick Fiori qui a dit laissez-le tranquille, il fera ce qu'il veut.
C'est marrant parce que tout le monde garde vraiment le secret et tout le monde respecte le choix de Goldman. Je voulais vous demander quelque chose, mais ça m'a échappé. Donc,
non, c'était sur les. Je sais ce que vous voulez me parler, parce
allez-y.
Que ça vous a attiré l'attention quand je vous en parlais tout à l'heure avant qu'on commence l'émission sur les comptes ronds.
Merci. Allons-y.
Non, mais c'est vrai.
Vous me connaissez bien. bien.
Écoutez,
exactement.
Alors, 30 ans. On parle beaucoup.
30 mais ans.
En fait, c'est très rigolo. C'est-à-dire que son début de carrière où ça ne marche pas, ça dure 10 ans. Donc, de, on va dire, des années 70 où il fait de la musique jusqu'à 81, premier succès.
Ouais.
Son avènement, son explosion est là où il domine tout. Ça dure 20 ans. C'est-à-dire 81, 2001. Cette fameuse date que nous évoquons aujourd'hui de la sortie de son dernier album, 4 septembre 1980, le premier album. Et le dernier sort voilà, à ce moment-là, en 2001. Et Les Enfoirés, c'est 30 ans.
Donc il aime les controns.
Bah, je sais pas, je n'ai pas posé la question, mais imaginez, le jour où Coluche va le voir pour lui demander dans 3 jours une chanson qu'il écrit, évidemment, l'hymne des Enfoirés, entre le moment où, de cette date-là et celui où il arrête, il se passe 30 ans. Donc ça fait 10, 20, 30. C'est chelou, comme diraient les jeunes aujourd'hui.
Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler de la vie de Goldman aujourd'hui.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Et en direct, c'est musique sur RTL avec un numéro de Jour J consacré à Jean-Jacques Goldman. Éric Jean-Jean, quelle est la vie de Jean-Jacques aujourd'hui?
La vie d'un homme tout à fait normal, qui vit une vie normale. Il est papa de 3 petites filles. Il a 6 enfants. 5 filles. Les 2 grandes, il y en a une qui est pédiatre, l'autre qui est psychologue. Il a un fils qui travaille dans le métier. Puis là, il a ses 3 filles, les 3 nouvelles filles.
Il est revenu en France.
Oui, il est parti quelque temps à Londres parce que Nathalie, sa nouvelle épouse, je crois, elle est docteur en mathématiques. Et je crois qu'elle enseignait là-bas. Et en plus, c'était chouette pour les enfants.
C'est génial parce qu'un homme qui a été tant dans la lumière, qui se met en retrait pour que sa femme puisse.
Ah bah, c'est exactement ce qu'il a fait. Parce que quand il l'a connue, elle était étudiante. Elle était prof dans un lycée un peu dur. Ensuite, elle a été doctorante. Et ils sont allés ensuite en Angleterre. Oui, aujourd'hui, Jean-Jacques s'occupe intensément de sa famille. Il fait beaucoup de sport. Tennis, vélo, course à pied.
Scrabble, puisqu'on en parlait tout à l'heure.
Il fait encore un petit peu de moto, j'espère,
et
mais beaucoup plus de vélo.
Il regarde les gens. Voilà. Ouais. Et c'est extraordinaire, parce que dans son entourage, c'est bouche cousue, quoi.
Hein. Ouais, ben, parce que faut respecter ça, il l'a demandé.
Oui. Parce que c'est éminemment respectable. En tout cas, Jean-Jacques Goldman, il mène donc une vie tranquille, familiale, loin des journalistes et des projecteurs, mais pas de la société. Il réapparaît pendant le premier confinement. C'est la dernière fois, je dirais qu'on l'a vu, c'était en mars 2020 sur les réseaux sociaux. Il a revisité sa chanson « Il changeait la vie » qui datait de 1987, en soutien au personnel soignant sur le front de la Covid. Il interprète ce jour-là « Il sauve des vies ».
Des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides-soignants, infirmières, agents de sécurité.
Ce que je trouve génial, c'est que c'est vraiment le son Facebook, quoi. Hein, c'est-à-dire, c'est
génial,
Goldman
c'est
qui
tout.
A toujours été au top, qui tout à
mais
coup...
Non, mais ce qui est génial, c'est tout. C'est-à-dire, c'est mal cadré. Il y a une espèce de vent au-dessus de sa tête. Il est pas habillé, il s'en fout. Mais encore une fois, c'est vachement important de préciser. Il s'en fout des apparences. Lui, il a juste envie de dire, je suis un citoyen. Ce que vous faites, c'est formidable. Il reprend cette chanson qu'il avait faite dans l'album, dans un album de la fin des années 80 et qui parlait des petits métiers comme ça. Et donc, pendant le confinement, il a dit ce qu'on pensait tous. Et puis alors, franchement, c'était chouette que Jean-Jacques Goldman, français préféré des Français, prenne la parole. Et du coup, ouais, il est sur cette image toute pourrie, avec un son tout pourri. Il n'est même pas allé dans un studio, il a juste fait ça comme ça, genre, hey, je suis là, je suis avec vous. C'est ça que ça veut dire. Moi, je trouve ça formidable, vraiment.
Voilà, c'était la dernière fois qu'on avait des nouvelles officielles, Jean-Jacques Goldman. Merci beaucoup, Éric Jean-Jean.
Mais je vous en prie, cher
Flavie. Pour cette heure passée avec vous. Merci à vous. Et... Happy birthday to you.
Merci beaucoup.
Merci, Mr. President.
Ah, vous allez faire Marilyn Monroe.
Vous avez quel âge?
J'ai 54 ans aujourd'hui, cher Flavie.
54 ans. Ouais. Joyeux anniversaire à vous, Éric Jean-Jean. Je rappelle donc la sortie jeudi prochain de votre nouveau livre. Je parle tout doucement. Goldman, une vie en chanson.
Moi, je précise qu'à chaque fois que je sors un livre, je commence chez Flavie.
C'est vrai.
C'est à cause d'elle que j'ai commencé
à écrire
des livres.
Merci pour votre fidélité.
Rappelez-vous, pendant le confinement.
Vrai. Exactement. Sans oublier, attention, je prends mon souffle, le drive sur RTL de tous les jours de 16h à 19h, Stop ou encore sur RTL et votre émission musicale Sans filtre sur W9.
Ouais,
bon anniversaire, Éric Jean-Jean.
Puis on a été tellement sage aujourd'hui.
Oui, mais c'est bien tenu et puis c'était passionnant. Merci d'être venu dans cette émission.
Salut.